Matriarca patrie, matriarca patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hoes.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en féminin.
Dégenrer l'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Si une féministe est accusée d'exagérer, c'est qu'elle est sur la bonne voie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Alors, vous avez reconnu qui c'était ?
Oui.
Alors, c'est Christine Delphi qui dit ça. Une de ses phrases les plus connues. Et parce que ce soir, on fait une émission de dégenrée sur Christine Delphi. Christine Delphi, féministe française qui a complètement bouleversé le féminisme avec ses livres formidables et ses articles incroyables. Enfin bon, moi je la connaissais pas avant de venir ici, mais j'ai un peu écouté ce qu'elle disait. Et puis aussi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Non mais moi, j'ai lu son article « L'ennemi principal » et je me suis dit « Ah mais c'est ça, en fait je suis féministe !» Non, je me suis dit « S'il y a des gens qui pensent ça, c'est que vraiment c'est important de faire un truc sur elle. » Alors, notre émission de ce soir est très simple. On a trouvé une conférence où elle raconte son parcours. Alors on a un peu travaillé le son et puis découpé ça en tronçons. Et comme ça on peut parler un petit peu, rajouter des trucs, présenter des trucs entre chacun des tronçons. Et c'est du coup une conférence qui est issue d'un séminaire de l'Institut Émilie du Châtelet qui a été filmé par l'Institut Audiovisuel de Simone de Beauvoir. Et ils ont comme ça interviewé, faire des conférences à plein de féministes différentes qui racontent leur parcours. Et on va commencer dès maintenant à écouter la première partie de la conférence qui est montée avec du beatbox fait par des meufs. Alors franchement, c'est vraiment chambé, c'est trop beau. C'est P4 Nkata et c'est une meuf suisse qui a été au championnat, à la finale du championnat du monde 2012 de beatbox féminin. Et du coup, les deux premières parties de la conférence, elles sont montées avec son chant.
Son beatbox. Mais en fait, beatbox. On sait qu'elle est arrivée jusqu'à la finale et peut-être même qu'elle est championne du monde. C'est juste qu'on n'a pas regardé jusqu'au bout pour savoir si elle était championne du monde ou pas.
On n'a pas trouvé l'information. Bon, et ben, bonne écoute.
Oh,
Dans mon cas, ce qui est assez difficile à distinguer, c'est le parcours universitaire du parcours militant, parce qu'en fait, les deux sont toujours intimement liés, du parcours militant et je dirais plus largement du parcours politique. Je suis devenue féministe, j'imagine, assez tôt, parce que je me suis rendu compte très tôt, comme beaucoup d'entre vous, des interdictions qui étaient faites aux filles. Je me souviens en particulier d'une phrase que mon père m'a dit une ou deux fois, quant à la table familiale. Je disais, oui, mais pourquoi les filles font ça et les garçons peuvent faire ceci, etc. Et une fois, il m'a dit, ne sois pas féministe. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'étais trop petite, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais j'ai compris que ce n'était pas bien, que c'était carrément mal élevé, c'était comme de mettre ses doigts dans son nez, etc. Bon. Donc, j'ai fait, comme on fait après moi et avant moi, des générations de femmes, c'est-à-dire que je disais les mêmes choses, mais je précédais mes phrases de « je ne suis pas féministe, mais ». Donc, j'ai eu très tôt un sentiment de l'injustice générale et durable faite aux femmes. Et contrairement à ce que certaines et certains essayent de faire croire, je me suis rendu compte, dès que j'étais adolescente, que ça ne s'arrêtait pas à l'interdiction de jouer au ballon, ou de siffler parce que ça faisait pleurer la Sainte Vierge. Bon, peut-être que les jeunes n'ont plus ça. Bon, moi, on me disait qu'il ne fallait pas siffler parce que ça faisait pleurer la Sainte Vierge. Ce qui ne m'empêchait pas de siffler, mais qui me donnait quand même un certain sentiment de culpabilité. Je me suis rendu compte assez tôt que, donc, dès que j'étais adolescente, que les relations interpersonnelles entre les filles et les garçons, les relations... on pourrait appeler amoureuse, mais qui n'était pas vraiment amoureuse, des relations de flirt, n'était pas du tout une enclave bénie aux portes de laquelle l'oppression et le deux poids deux mesures s'arrêtaient. Bien au contraire. Et alors, il y avait donc une espèce de hiatus entre ce que je voyais dans la société en général et dans les écoles où mon parcours m'a conduite, puisque comme j'ai été renvoyée de mon lycée non mixte très tôt, je pense que j'avais 13 ans ou quelque chose comme ça, et que j'ai ensuite été placée dans divers lycées qui m'ont renvoyée aussi, j'ai abouti dans une boîte privée qui était mixte, mais où il y avait, disons, à peu près, même pas 10% de filles, il devait y avoir 5% de filles. Et là, j'ai vraiment senti qu'on était vraiment, c'est même pas mal vu, mais qu'à la limite, on était gênante et qu'on n'avait pas vraiment le droit d'exister. Par exemple, si on était dans la cour et qu'on s'asseyait sur les marches, les garçons s'amusaient à faire semblant de regarder sous nos jupes ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, etc. Bref, ils faisaient un chahut. Et à ce moment-là, qui est-ce qui se faisait engueuler ? Ben, c'était nous. On se faisait engueuler parce qu'on avait provoqué le chahut. Comment est-ce qu'on avait provoqué le chahut ? On n'avait rien fait, mais on était là. Donc en fait, c'était notre présence était en elle-même perturbante et les ennuis qui résultaient de cette présence nous étaient attribués et c'était tout juste si on n'était pas puni pour ça. Et donc il y avait, je reprends ma phrase, il y avait un hiatus entre ça et ce que je vivais dans ma famille. Parce que ma mère et surtout ses deux frères nourrissaient de grandes ambitions pour moi, enfin pour les deux filles que nous étions, mais en particulier pour moi, sans doute parce que j'étais l'aînée, et il n'y avait pas de limite à cette ambition. Et j'étais très soutenue, toute ma famille trouvait tout ce que je disais absolument admirable, et donc ne mettait pas de limite aux merveilles que je pourrais faire plus tard. Bon. Ensuite, et ce qui me rendait donc les limitations que je rencontrais encore plus pénibles, je pense. Ensuite, je suis entrée à l'université et sans savoir exactement ce que c'était, je me suis inscrite en sociologie. Je ne savais pas ce que c'était parce que c'était une matière qui était enseignée dans la dernière partie du cours de philosophie. Or, justement, j'avais été vidée de ce lycée-là aussi au cours du dernier trimestre. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était que la sociologie. Mais j'ai fait un cursus de sociologie et les cours qui m'ont le plus intéressée n'étaient pas les cours des sociologues, qui étaient des grands sociologues dont les noms sont maintenant passés dans l'histoire, comme Raymond Aron, Pierre Bourdieu, mais ceux de psychologie sociale avec Stölzel et Maisonneuve, parce que j'ai appris que tout ce que nous prenons pour des réactions naturelles et que nous attribuons à la nature humaine universelle étaient en fait des réactions culturelles. Et ça m'a fascinée et ça m'a délivrée, parce que j'ai à ce moment-là, à partir de ce moment-là, regardé le monde, ses croyances, ses conventions, à travers ce prisme, et ça m'a donné de la distance, et ça m'a libérée dans une certaine mesure. Par exemple, apprenant que même ce qui paraît des onomatopées qui seraient partagées par tout le genre humain, étaient en fait des conventions de langage, eh bien je me suis entraînée pendant longtemps, et j'ai réussi, au lieu de faire « atchoum » quand j'éternuais, à faire « tchouma ». Et ça se fait très bien. Pas du premier coup, je vous préviens. Non. Et alors, à cette époque, ce que j'appelais relativisme, c'était plus qu'un prisme, c'était une arme. Et avec cette arme, j'ai pu résister aux pressions et aux sanctions. Et c'est à cette période que j'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et là, je veux en dire quelque chose parce que je crois, comme beaucoup qui l'ont lu, beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes qui l'ont lu à cette époque, je ne lui ai pas entièrement rendu justice à ce moment-là. Dans le sens que ce que j'ai souligné, et je pense que ça doit être encore dans mon exemplaire, dans mon premier exemplaire, que j'ai fait plus tard dédicacer par Beauvoir, sans lui montrer les petites notes que j'avais prises, je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Et ce n'est qu'en le relisant des années et des années plus tard, je dirais même des décennies plus tard, que je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je croyais être mes réflexions, en fait, venaient de ce livre. Et que le syndrome deuxième sexe était passé par là. C'est-à-dire que, véritablement, et il y a d'autres femmes, sans doute plus reconnaissantes ou plus honnêtes que moi, qui l'ont dit, elle avait mis des mots sur ce que nous vivions. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que souvent, nous n'avions pas les mots pour le dire.
Remix.
Alors, on vient d'écouter la première partie là, de la conférence de Christine Delphi où elle retrace son parcours et on a trouvé ça bien intéressant, tout ce qu'elle raconte sur son enfance et son adolescence et comment finalement cette expérience-là, ça a beaucoup participé à son engagement féministe qu'elle racontera dans les parties suivantes. Et on voulait s'arrêter un peu parce que dans cette... première partie, elle parle de ses études et surtout de sa lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et on trouvait ça important peut-être de revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que Christine Delphi, elle part un peu de la théorie qui a été écrite par Simone de Beauvoir. Qui dit « on ne naît pas femme, on le devient », qui est le fait en fait que notre identité, l'identité de femme serait quelque chose de socialement construit. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour le mouvement féministe et en particulier pour ensuite le mouvement féministe matérialiste qui est un peu parti de là, hein, de cette idée que on n'est pas naturellement femme mais que le fait d'être femme c'est quelque chose de socialement construit.
Tu veux dire qu'ils ne sont pas essentialistes ?
Exactement, ils ne sont pas essentialistes. Il y a un courant féministe essentialiste qui pense que les femmes et les hommes sont naturellement différents et que cette différence est quelque chose d'important, qu'il faut sauvegarder, hein, et que ce qui compte, c'est de... Enfin, ce qui ne va pas dans la société, c'est que les femmes et le féminin sont sous-estimés et une sous-catégorie sociale et qu'en fait, il faudrait atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes tout en gardant les différences qui existent.
D'où le fait d'ailleurs qu'on les appelle aussi les féministes différentialistes. Appelle essentialistes ou différentialistes parce que c'est des tenantes de la position de la différence des sexes, que c'est important de garder cette différence parce que c'est ce qui crée le désir entre les hommes et les femmes.
Et du coup... L'inverse de constructiviste ou de différentialiste, c'est matérialiste.
Non. Alors déjà, on pourrait peut-être dire que l'inverse de essentialiste, c'est constructiviste. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir, elle dit on ne naît pas femme, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de biologique, où on serait dès la naissance une femme ou un homme, mais que le fait d'être, de faire partie de la catégorie sociale de femme ou d'homme, c'est quelque chose qui est culturel. Hein, et qui est culturel et qui est aussi universel, c'est-à-dire c'est différent dans chaque culture, mais c'est dans toutes les sociétés comme ça. Et qu'il y a donc une inégalité hein, entre les hommes et les femmes. Mais Simone de Beauvoir, elle dit que ce qu'il faudrait, c'est que la catégorie sociale de femme accède en fait au statut qu'occupe la catégorie sociale d'homme qui en fait sont les détenteurs de ce qui est universel. C'est-à-dire quand on dit la politique, c'est les hommes, quand on parle des idées, c'est les idées des hommes. Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est que les femmes doivent sortir de leurs conditions.
Ça doit pas être, femme, ça doit pas être un morceau un peu différent des hommes, comme genre la moitié des hommes sont des femmes. Il faudrait que en fait, on dise les hommes et les femmes, quoi. Enfin, que ça soit une même catégorie ou un truc comme ça.
Exactement, oui.
Et du coup, juste pour bien distinguer ce truc de réalité biologique et réalité sociale, c'est que du coup, c'est là qu'intervient le genre, qui est le sexe social. C'est que du coup, le sexe, si on peut parler d'existence d'un sexe biologique, parce que de plus en plus de personnes le remettent en cause, le sexe biologique, ça serait juste notre réalité biologique et anatomique, de comment naissent les personnes. Et après, le sexe social, c'est-à-dire que tous les attributs un peu psychosociaux, nos traits de caractère, nos goûts, nos envies, ce qu'on aime faire dans la vie, nos capacités.
Les comportements, quoi.
Nos comportements, ça, c'est des choses qui sont modelées socialement et non pas liées au fait que vu qu'on est né avec telle ou telle anatomie, c'est ce qui fait qu'on va devenir comme ça. Ça, c'est ce qui se construit socialement. Et du coup, d'où la différence du sexe social et la notion de genre.
Et du coup, le mot genre, c'est Simone de Beauvoir qui l'a inventé.
Non, le mot genre, c'est ni Simone de Beauvoir ni Christine Delphi qui l'ont inventé. C'est un mot qui a été utilisé par des théoriciennes américaines, hein, qui disaient donc en anglais gender, et qui ensuite a été traduit en français comme le genre. Voilà.
Après les années 70.
Oui, après les années 70. Au moment où Christine Delphi, elle a écrit, elle parlait de patriarcat, de classe d'hommes, de classe de femmes. Mais ça, c'est ce qu'on verra plus tard quand elle en parlera elle-même. Et c'est ce qui fonde, ce sont des termes qui vont avec sa théorie matérialiste.
Voilà. Ah, qu'on va voir plus tard. Du coup, peut-être on pourrait enchaîner sur la suite. Mm-hmm. Alors, on va écouter le deuxième tronçon qui est toujours monté avec du beatbox.
Ensuite, j'ai obtenu une bourse, ayant terminé donc ma licence de sociologie, j'ai obtenu une bourse pour aller aux États-Unis. Et j'ai été à l'université de Chicago. Bon. La première année m'a permis de me plonger dans la culture américaine, mais... J'ai essayé de rester l'année suivante et j'ai postulé pour avoir une place à l'université de Californie à Berkeley parce que Irving Goffman y était. Et je voulais étudier avec lui. Et malheureusement, cette année-là, il ne donnait pas de cours. Donc, il donnait une espèce de tutorat. C'est-à-dire, je le voyais de loin en loin. Mais ça n'était pas vraiment suffisant. Alors, ça m'a servi à quelque chose aussi, la première année que j'ai passée à Chicago, parce que, du coup, j'en ai profité pour... Parce que j'avais beaucoup de temps, vu que les cours... J'étais pas censée assister particulièrement à des cours. C'était un programme assez bizarre. Et... Donc, je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main, ce qui m'a permis quand même de parfaire mon anglais, qui n'était pas si parfait que ça. Et j'ai lu aussi toutes les œuvres de Freud. L'œuvre entière qui existait à ce moment-là, l'œuvre complète existait en anglais, alors qu'elle n'existait pas encore en français. Et je l'ai... Bon, là, je pense que là, elle va se marquer un point de bifurcation avec beaucoup de mes camarades. Je l'ai lu avec un sentiment croissant d'indignation, mais aussi de soulagement. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un côté, j'étais horrifiée par la perversité de sa théorie. Alors, en quoi sa théorie est-elle perverse? Parce qu'elle énonce une infériorité psychologique des femmes, d'où découlerait leur infériorité sociale, mais elle en fait porter la responsabilité aux femmes d'elles-mêmes, à leur propre perception de leur anatomie. En même temps, cette théorie dit que leur perception est fondée. Donc les femmes perçoivent bien la réalité, qui est qu'elles ont un équipement anatomique inférieur, mais si elles ne le percevaient pas, elles ne se sentiraient pas si inférieures. Donc c'est quand même très pervers. Et en voyant les trésors de sophismes et de raccourcis injustifiés que Freud dépense pour arriver à son but, qui est de défendre comme seule sexualité normale le coït hétérosexuel, j'ai compris, à l'inverse de ce qu'il souhaitait, que cette prééminence était purement sociale et que les homosexuels étaient un groupe stigmatisé. Et je me suis aperçue aussi que pour lui, la réalité, c'était sa perception de la réalité. Et on le voit très bien dans certaines œuvres, quand il dit par exemple que Dora doit être névrosée puisqu'elle a refusé d'avoir une relation avec un bonhomme, je ne me rappelle plus lequel, parce que il faut être névrosé pour refuser d'avoir une relation avec un type aussi séduisant, c'est parce que lui, Freud, le trouvait séduisant. Donc ça, c'était la réalité. Et donc, Dora a refusé le principe de réalité. Et je pense que cette lecture m'a vraiment libérée aussi, dans le sens qu'elle m'a montré en quoi nous autres, femmes et homosexuels, des deux sexes d'ailleurs, si je peux, Nous avions affaire quand même à quelque chose de très grave. Ensuite, à la fin de l'année que j'ai passée à Berkeley, donc j'en avais assez d'être dans la tour d'ivoire de l'université. Ce qui fait que j'ai demandé une bourse et je l'ai obtenue, une bourse dans la fondation Eleanor Roosevelt pour les droits humains. Et je souhaitais aussi participer à la lutte pour les droits civiques. La lutte pour les droits civiques, je l'avais rencontrée en 62 quand je suis arrivée aux États-Unis, et c'est quelque chose qui me passionnait. Et je voulais vraiment faire quelque chose. Donc je me suis retrouvée dans une association pour les droits civiques, dans sa branche régionale, car c'est la seule qui a demandé à m'interviewer. Et là aussi, je me suis rendu compte de quelque chose qui était quand même très frappant, c'est que la plupart des boursiers de cette fondation, car nous avons eu un séminaire d'une dizaine de jours, dans une résidence hyper luxueuse d'ailleurs, voulaient donc travailler dans des associations de droit civique. L'intérêt pour ces associations d'engager ces boursiers, c'est que la moitié de leur salaire était payée par la fondation. Et tous les autres jeunes que je rencontrais étaient, comme moi, des jeunes gens d'origine bourgeoise, petite bourgeoise et blancs. Et ces associations, car les associations de droit civique aux États-Unis, il y en a de toutes les sortes, elles sont au niveau de la ville, elles sont au niveau du comté, elles sont au niveau de l'État, elles sont au niveau fédéral, et elles existent pour tous les groupes discriminés. Elles existaient déjà à ce moment-là. Mais ce que ces associations souhaitaient que ces boursiers fassent, c'était surtout du fundraising. Donc, c'était très bien pour elle que nous soyons tous blancs, mais c'était encore mieux si nous étions un jeune homme blanc. Bon, donc, les jeunes femmes blanches, comme moi, n'étaient pas tellement sollicitées. Et je n'ai pas eu beaucoup de choix, puisque donc, seule l'agence de Washington m'a contactée. Donc, j'ai travaillé dans cette agence de Washington, D.C. Enfin, j'ai fait une autre expérience. C'est que j'ai été victime, si on peut dire, parce que bon, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas été victime d'agression sexuelle, mais j'étais victime de ce que, beaucoup plus tard, on appellerait le harcèlement sexuel par deux hommes, l'un qui était le directeur de cette agence de Washington, et l'autre qui était le petit ami de ma patronne, et qui était également noire. Et c'était très difficile, je veux dire, il fallait être très poli. On pouvait refuser les avances, bien entendu. Mais il fallait être très poli et il fallait être doublement poli. Il fallait être très poli en général, parce qu'il ne fallait pas blesser les sentiments des hommes. Mais en plus, quand ils étaient noirs, on était toujours, il y avait toujours la suspicion de racisme, donc il fallait être triplement attentive à refuser d'une façon... qui soit crédible. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, on ne pouvait pas dire simplement à un type « Non, toi, tu ne me plais pas. » Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce qu'il ne fallait pas le blesser. Donc, à la fin de cette année-là, qui était aussi ma dernière année aux États-Unis, eh bien, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a beaucoup blessée, c'est que je me suis dit, moi, bon, je suis blanche et je veux travailler pour les droits civiques des Noirs, qui ne les avaient pas. Mais eux, ils sont prêts à profiter du fait que je suis une femme, de mon statut inférieur de femme, sans aucun scrupule. Et à ce moment-là, et c'était en 65, je me suis dit, désormais, je ne travaillerai plus que pour « my people ». Alors, je me suis dit en anglais, parce qu'à ce moment-là... les langages se confondaient un peu pour moi, et donc je me parlais en anglais. Et « my people », c'est à peu près intraduisible en français, parce que ça ne veut pas dire « mes gens », hein, ça ne veut pas dire « mon peuple » non plus, parce qu'il n'y a pas l'idée d'une nation constituée derrière, mais ce sont « mes semblables ».
Alors, dans cette deuxième partie, Christine Delphi là, nous raconte un peu... d'abord, une partie sur laquelle on ne va pas revenir, mais qu'on a trouvée bien intéressante de sa critique de la lecture de Freud. Mais surtout, son voyage aux États-Unis qui a été quand même très important pour elle et puis pour la constitution de sa théorie. Et puis d'ailleurs pour d'autres féministes aussi qui sont passées par les États-Unis au moment du mouvement pour les droits civiques et qui vont revenir, elle va revenir ensuite en France avec pas mal d'idées qui viennent en fait de ces mouvements et notamment ce qu'elle a dit là par rapport à son expérience dans cette association dont elle est sortie en se disant qu'elle allait travailler pour My People, c'est-à-dire ses semblables, voilà, et donc en fait pour les femmes.
Et en fait, c'est cette fameuse phrase ne me libère pas, je m'en charge.
Exactement, c'est-à-dire ça fondera l'idée que ce sont aux femmes de se libérer et que donc le mouvement devra être un mouvement en non-mixité. C'est-à-dire sans les hommes. Mais aussi, ça veut dire d'ailleurs que c'est pas... Enfin, elle s'est rendue compte sûrement que c'était non plus pas vraiment à elle d'aller mener la lutte des Noirs aux États-Unis pour leurs droits civiques.
C'est autocritique aussi quand elle dit ça. Mmh. Mmh.
Après, elle reviendra dessus par la suite, mais du coup, elle a, au tout début, mais comme beaucoup de féministes d'ailleurs, et c'est encore utilisé maintenant... de beaucoup utiliser l'analogie avec le racisme pour théoriser l'oppression des femmes et du coup faire tout le temps poser au fait l'oppression poser l'oppression raciste comme un fait avéré que des personnes ne vont pas remettre en cause, enfin du moins on l'espère, que beaucoup de gens ne vont pas remettre en cause, et du coup utiliser exactement les mêmes mécanismes pour expliquer l'oppression faite aux femmes. Et du coup, c'est partir de là et partir de ce mouvement d'oppression aux États-Unis des personnes noires et qui essayent de s'émanciper par eux-mêmes et par elles-mêmes. Et du coup, utiliser ça dans le cas des femmes. Mais elle reviendra dessus et elle dira des choses très intéressantes par-dessus, mais on va pas avancer plus vite que la musique.
Oui, c'est ça. C'est qu'elle est aussi assez critique de ce parallèle et puis elle voit qu'il y a des failles à ça et c'est ce qu'elle raconte dans le prochain morceau qu'on va entendre. Et le prochain tronçon de la conférence, on va l'entendre après un morceau de musique qui est un morceau du groupe stéphanois qui s'appelle Atomic Tango et dont le titre du morceau est Female Voice. Et du coup, ça sera suivi de la suite de la conférence.
Ensuite, je suis rentrée en France et je me suis inscrite pour un doctorat de troisième cycle avec Pierre Bourdieu, qui avait été un de mes professeurs. Et j'aurais voulu inscrire un sujet de thèse. Je lui ai dit que je voulais travailler sur les femmes. Il m'a dit, mais ça n'existe pas. Moi, je ne connaissais pas, il m'a dit que les femmes n'existaient pas, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de recherche sociologique sur les femmes. Et j'ai pris ça pour argent comptant et j'ai dit que dans ce cas-là, eh ben, je voulais faire de la sociologie rurale parce qu'à défaut de pouvoir travailler sur les femmes, je me disais au moins je serais à la campagne. Et puis petit à petit, eh bien, j'ai étudié la transmission du patrimoine en milieu rural chez les agriculteurs. Et en fait, donc là, j'ai récupéré mes femmes, si je peux dire. Parce qu'il y en avait. Et je me suis rendu compte que la transmission du patrimoine était complètement en dehors du marché. C'était une grosse circulation de biens qui se faisait à l'extérieur du marché et qui m'a donné, en fait, mais je ne le savais pas à l'époque, les prémices de ce que j'ai développé ensuite sur le mode de production familiale. Et puis, ce que je voyais très bien, c'est que il y avait vraiment deux parcours complètement différents selon les sexes, car les femmes, on ne leur donnait pas, elles n'héritaient pas, on ne leur passait pas l'exploitation familiale. Bon. Elles étaient exclues depuis le premier jour, en fait, depuis le jour de leur naissance. Et là-dessus, si vous voulez, et si vous ne voulez pas, c'est le même prix, il est arrivé mai 68. Alors mai 68, ça a été pour moi, comme pour d'autres, un grand bouleversement et une grande chance. Bon. Et en ce qui me concerne, ça m'a permis aussi de rencontrer le premier groupe féministe qui s'appelait FMA, Féminin Masculin Avenir. Or moi, je n'attendais que ça. Et avec ce groupe, nous avons organisé deux conférences dans la Sorbonne libérée. L'une avec Evelyne Sullerot, qui était à ce moment-là une des rares femmes à écrire sur les femmes et à dire, entre autres choses, que les femmes avaient toujours travaillé, et une autre avec Gisèle Halimi, qui nous avait fait beaucoup rire parce qu'elle nous avait raconté comment, lors d'un procès pour divorce, où elle représentait la femme, et elle avait employé à propos du mari une phrase qui était d'ordinaire utilisée pour les femmes. Elle avait dit qu'il avait acquis des habitudes d'indépendance incompatibles avec l'état de mariage. Et le président du tribunal lui avait dit mais maître, vous parlez du mari. Alors, nous avons vécu comme ça, éphémère, nous avons une période de gloire où il y avait jusqu'à 40 personnes qui s'étaient inscrites, dont moitié d'hommes d'ailleurs. Et puis une période de déchéance qui a duré très longtemps. On avait beau faire quoi que ce soit, on n'arrivait pas à percer et on n'arrivait pas à rencontrer d'autres groupes. Or, nous étions convaincus qu'il y avait d'autres groupes, qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient comme nous, mais nous ne savions pas comment faire pour les localiser et pour les rencontrer. Mais c'est dans ce groupe aussi, c'est à travers nos discussions hebdomadaires, que j'ai commencé à comprendre quelque chose qui était très important, qui était à la fois politique et, je dirais, scientifique. C'est qu'on parlait toujours, évidemment, on parlait énormément de la classe ouvrière. La classe ouvrière, l'exploitation capitaliste, c'était vraiment le cadre de l'époque. Le cadre de pensée de l'époque. Et on parlait toujours de l'exploitation des ouvriers, pas des ouvrières d'ailleurs, la classe ouvrière, mais les ouvriers, et de l'oppression des femmes. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait quand même une hiérarchie entre ces deux mots, c'est-à-dire qu'être opprimé, c'était pas bien, mais être exploité, c'était bien pire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette dimension économique qui était censée manquer. Et alors moi, je l'avais, si vous voulez, cette dimension économique, quelque part dans mes affaires, à cause de mon travail à la campagne, mais aussi, tout simplement, à cause de mon expérience de tous les jours. Parce que dans les choses, les choses qui m'avaient marquée quand j'étais petite, mais une chose que je n'avais jamais dite à la table familiale, c'était tabou, je ne pouvais pas le dire, mais que j'avais dit à ma meilleure amie de l'époque. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes, alors j'avais pris un exemple qui était un peu idiot d'ailleurs, et on avait parlé de ça pour ne pas parler des choses réelles, je crois. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui cirent toujours les chaussures des hommes ? Et alors, en fait, je n'avais jamais vu ma mère cirer les chaussures de mon père. Et elle avait pris le même exemple et elle m'avait dit « mais c'est parce qu'elle les aime ». Bon. Alors je lui avais rétorqué, oui, on avait quand même des jeux symboliques. Je lui avais rétorqué, mais eux aussi, ils aiment les femmes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne leur cirent pas les chaussures ? Mais en fait, d'où venait cette conversation ? Du fait que mes parents travaillaient tous les deux, ils étaient pharmaciens tous les deux, ils travaillaient tous les deux le même nombre d'heures dans une pharmacie, et ils étaient épuisés. Ils rentraient à la maison à 12h30, ma mère faisait le déjeuner à toute allure, on mangeait à toute allure, elle faisait la vaisselle à toute allure, et tous les deux repartaient. Et pendant qu'elle faisait ça, et qu'elle avait à peine le temps de s'asseoir pour avaler une bouchée, mon père lisait le journal. Et là, si vous voulez, j'avais un cas d'école. Moi, j'avais pas une mère au foyer. J'avais une mère qui travaillait, qui se tuait au travail, comme mon père. Ils se tuaient au travail tous les deux. Mais ma mère n'avait pas cet instant de repos que mon père avait. Et c'était la même chose qui recommençait le soir. J'avais cet exemple en tête, cet exemple d'injustice flagrante, parce que mon père ne levait pas le petit doigt à la maison. Donc j'avais cet exemple-là, et j'ai commencé, dans la fin de 69, début 70, à écrire, à rédiger ce qui devait être l'embryon de l'ennemi principal, c'est-à-dire de la théorie de l'exploitation économique des femmes. Et puis aussi, on était quand même au départ un groupe mixte. Bon, on était de moins en moins nombreux, certes, mais il y avait des garçons. Et on avait un discours qui était fondé sur l'oppression, alors je ne me rappelle plus dans quel terme, mais enfin bref, tout le monde était perdant. Et moi, au bout d'un an, et même avant, je trouvais que c'était quand même... Parce que c'était très difficile de dire en quoi l'oppression des femmes gênait les hommes. C'était très très difficile. C'était d'un niveau très philosophique. C'est parce que la personne qui vous opprime, en fait, elle n'est pas vraiment libre. Bon, quand on regardait les hommes, on n'avait pas l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment libres. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment libres quand même. Bon. Et puis que l'oppression des femmes, ben, ça concernait surtout les femmes, quoi. Bon. Et alors moi, j'ai un peu insisté. Alors FMA est devenue... Enfin, je n'ai pas eu besoin d'insister beaucoup. FMA est devenue, et même quand on avait encore, je crois, deux ou trois hommes, là, est devenue féminisme marxiste action. Bon, déjà, on avait troqué féminin pour féminisme, c'était déjà mieux. Masculin pour marxisme. Et action pour... Qu'est-ce que c'est, féminin ? Avenir. Avenir, action. Voilà. Bon.
Et donc là, Christine Delphi vient de poser un peu les bases de ce qu'on appellera après le féminisme matérialiste et qui changera un peu la face du féminisme. Et du coup, le matérialisme, c'est quoi ? C'est que Christine Delphi s'est rendue compte, elle l'a très bien expliqué avant, de la hiérarchie qui était existante, que posaient un peu même les gens de gauche sur le fait qu'il y avait un mode de production capitaliste qui exploitait et opprimait les travailleurs et les exploitait de tous bords, là. Et du coup, elle a posé aussi, du coup, c'est ce qu'elle explique, par exemple, notamment dans son livre « L'ennemi principal, économie politique du patriarcat ». Elle a posé les bases d'un mode de production domestique qui fait que, du coup, les hommes arrivent à exploiter les femmes. Du coup, les femmes aussi étaient un corps social exploité parce que le fait que les femmes prennent en charge toute une part de travail domestique gratuit, prennent en charge le soin de la famille, l'écoute des autres, le fait de porter de l'attention, d'élever les enfants, de tout ce travail domestique et ménager, et sexuel aussi d'ailleurs. Et du coup, tout ce travail que prenaient en charge les femmes permettait aux hommes justement de sortir et de s'enrichir à l'extérieur pendant que les femmes étaient en train de prendre soin de la maison.
Et qu'elle faisait un travail gratuit, du coup. Et qu'elle était véritablement exploitée.
Du coup, au fait, cette exploitation, du coup, elle a posé aussi les bases de... Du coup, le patriarcat se fondait aussi sur une exploitation économique et que, du coup, les hommes bénéficiaient justement de tout ce travail domestique non reconnu et gratuit que faisaient les femmes pour pouvoir s'enrichir. Après, les choses n'ont pas beaucoup changé dans la mesure où, actuellement, c'est exactement la même, sauf que les femmes travaillent des fois aussi à l'extérieur. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elles font une double journée de travail. Du coup, ça veut dire qu'on reste aussi sur un mode de production... de travail domestique qui n'est pas reconnu et qui fait que les hommes peuvent s'enrichir là-dessus. Et du coup, ça, c'est ce qui peut permettre aussi de poser une domination, une oppression distincte du capitalisme. Ça veut dire que le patriarcat n'est pas subordonné au capitalisme et que le jour où on en aura fini avec le capitalisme, ce n'est pas pour autant que le patriarcat sera fini. Et du coup, c'est comme ça qu'elle pose les bases de... deux oppressions distinctes, et du coup, qu'elle pose la nécessité de la lutte féministe, et que du coup, on ne peut pas juste être tous et toutes anticapitalistes pour pouvoir changer les choses, mais qu'il faut aussi lutter conjointement et sur plusieurs fronts, et notamment le front capitaliste, mais aussi le front patriarcal, et du coup, antipatriarcal, quand on est de notre côté.
Et mais ce qu'elle dit aussi, d'ailleurs, c'est que finalement, le capitalisme ne pourrait pas exister sans le patriarcat, puisque si on devait justement payer des personnes... pour faire ce travail, ça coûterait extrêmement cher et qu'en fait, le capitalisme, il repose aussi sur le fait que la classe des femmes est exploitée par les hommes et qu'elles font tout ce travail gratuitement.
Il y a des gens qui disent quand même « Ah, mais quand on en aura fini avec le capitalisme, c'est sûr, l'exploitation entre les hommes et les femmes, ça s'effondrera parce que le schéma familial, il dépend du capitalisme et tout. » Ça, elle leur dit « Mais vous êtes complètement teubés, c'est n'importe quoi ce que vous dites. » Et elle renverse un peu la chose en disant « Mais par contre, le capitalisme, il pourrait très bien s'écrouler si le patriarcat disparaissait. »
pas forcément. En fait, l'idée, c'est que du coup, les féministes matérialistes, même si elles accordent une énorme importance à la domination patriarcale, pour dire que c'est une domination principale et que c'est l'ennemi principal, il y a quand même tout le temps, elles ont tout le temps posé un peu une espèce d'importance sur le fait qu'il fallait se battre sur tous les fronts. Et que du coup, il y avait plusieurs dominations distinctes. Les trois qu'on connaît, enfin les trois principales, c'est le patriarcal, le capitalisme et le racisme. Et qu'il fallait se battre sur tous ces fronts-là. Et que c'était des systèmes de domination qui se juxtaposaient et qui se renforçaient les uns les autres. Et que du coup, il fallait se battre contre tous les systèmes de domination en même temps pour pouvoir arriver à un monde, je sais pas, plus égalitaire, avec plein de petits oiseaux dans le ciel. Mais que du coup, justement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou plein de masculinistes, ou du coup plein de personnes qui réfutent la nécessité du féminisme pour dire non, mais ce que vous voulez, c'est un renversement de système où les femmes seraient plus fortes. Justement, en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, on veut pas un système où les femmes seraient plus fortes, mais plutôt d'un système où il n'y aurait plus de distinction de genre et de domination liée à l'appartenance de sexe ou de genre des individus. Et du coup, et c'est pas juste en renversant ça qu'on sera contente et qu'on sera contente d'être dans un système capitaliste, parce que souvent, une des critiques aussi, c'est de dire que le féminisme est une lutte de bourgeoises, que du coup, des bourgeoises qui ont déjà aucun problème d'un point de vue capitaliste et qui sont pas exploitées, bah, du coup, elles ont tout loisir de pouvoir se poser des questions existentielles, notamment sur le féminisme, ce qui est complètement faux. Et justement, sur ce truc-là, une des phrases qui était super connue à un moment dans les années 70, c'était « prolétaire de tout pays qui lave vos chaussettes ». Parce que du coup, le fait que les hommes soient des prolétaires ne veut pas dire qu'ils n'exploitent pas leurs femmes à la maison, il ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dominées par ailleurs.
Oui, et puis il y a aussi une autre phrase qui a été reprise plus tard, qui était « militant de tous les pays qui lèvent vos chaussettes », parce que pendant que tous ces gars sont en train de faire des réunions militantes, de syndicats et tout ça, bah, en attendant, il y a toujours des meufs, s'ils sont dans des systèmes familiaux, il y a toujours des meufs derrière qui s'occupent des gamins pendant que les gars sont sur les barricades, en fait.
Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est un peu ça les bases du matérialisme. Et pour dire un peu les références, parce qu'en fait, tout au long du parcours de Christine Delphi, elle a été un peu guidée, ou du moins, elle s'est pas mal inspirée de Marx et de la théorie marxiste. Et du coup, en fait, le matérialisme, c'est pas Delphi qui a inventé ça, mais elle a juste appliqué, en fait, la grille de lecture matérialiste à la domination patriarcale. Mais du coup, le matérialisme, c'est déjà, en fait, les bases qui sont posées pour étudier... les bases de la lutte des classes basiques, les classes socio-économiques, comment en fait la bourgeoisie et les capitalistes, par le fait d'exploiter la main-d'œuvre de travailleurs et qu'ils n'ont que leur force manuelle pour travailler et font de la plus-value là-dessus et génèrent du capital et blablabli, blablabla. Et bien du coup, elle prend la même grille de lecture et l'applique à la domination patriarcale pour voir comment matériellement et concrètement les femmes sont exploitées et que c'est pas juste une sensation, un sentiment qu'elles ont, mais que ça se base sur des faits matériels concrets. Et du coup, c'est un peu utiliser l'analyse marxiste et l'appliquer aux femmes. Mais par contre, elle dépasse les féministes marxistes, parce que justement, il y a des féministes marxistes qui reconnaissent du coup la théorie de Marx, mais qui du coup font quand même que pour elles, le patriarcat est subordonné au capitalisme. Et que du coup, quand même, le front principal, ça serait le capitalisme, et qu'il y aurait des espèces de trucs secondaires. Mais comme disaient plein de gens, les maoïstes aussi, pour qui c'était des contradictions secondaires, en fait, le racisme ou le patriarcat, que c'était secondaire. Et du coup, elle dépasse les féministes marxistes dans la mesure où elle pose vraiment distinctement une domination patriarcale contre laquelle il fallait lutter.
Et puis, ce que je voulais dire aussi là, par rapport à ça, c'est que y a cette théorie matérialiste qui dit donc que l'exploitation des hommes par les femmes, ça crée deux classes, en fait. La classe des hommes qui exploite la classe des femmes. Et on peut faire le lien avec ce qu'elle disait au début par rapport à Simone de Beauvoir et au constructivisme, ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est que, justement, c'est le fait d'appartenir à cette classe d'hommes ou à cette classe de femmes qui fait de nous en fait qui explique les comportements différents des hommes et des femmes. C'est elle met l'exploitation des femmes au centre vraiment de cette explication.
Donc son matérialisme, son féminisme matérialisme est très très lié au constructivisme.
Oui.
Oui, aux notions de genre. En fait, elle, ce qu'elle a apporté, c'est ce truc de dire qui est pas très clair, mais de dire que, au fait, la division et la hiérarchie viennent dans le même mouvement. Parce qu'au fait, souvent, on dit qu'il existe des sexes et des genres dans la société, il existe les hommes et les femmes. En fait, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à expliquer au-delà des explications naturalistes, dont la nature ou Dieu aurait créé les hommes et les femmes, mais sans savoir expliquer comment. Et du coup, et on ne sait pas comment, à un moment, les hommes, ils ont été plus forts, et que du coup, les femmes,
Elles
se sont fait avoir dans l'histoire, quoi. Mais du coup, elle, ce qu'elle explique, c'est que dans le même mouvement naissent une division, une hiérarchie, et que même c'est cette hiérarchie-là qui crée la division des sexes. Qu'il n'y aurait pas des catégories hommes-femmes qui existeraient s'il n'y avait pas une domination d'une partie sur l'autre. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de domination d'une partie sur l'autre, on n'a pas besoin de catégoriser les gens.
C'est comme il n'y aurait pas de bourgeois s'il n'y avait pas de prolétaires et inversement, qu'il n'y aurait pas de racisés s'il n'y avait pas de personnes blanches qui étaient la référence. Et on peut continuer comme ça longtemps sur les personnes handicapées, les personnes valides. Et du coup, elle explique vraiment que, en fait, c'est un mouvement qui existe, enfin, c'est une catégorisation qui existe parce qu'il y a une hiérarchie qui existe. Et non l'inverse, que ces catégories-là n'existaient pas dans la nature et qu'à un moment, il s'est passé quelque chose qui a changé les choses, quoi.
Peut-être on va continuer d'écouter. Alors, on va écouter du coup une quatrième partie de la conférence. Et on n'avait pas dit tout à l'heure, mais c'est monté avec de la musique d'un groupe qui s'appelle Blues et dont le morceau s'appelle Into the Black.
Alors, à ce moment-là, il s'est encore passé une autre chose merveilleuse, après la chose merveilleuse qui était mai 68, c'est que Monique Wittig, Gilles Wittig, Marcia Rothenburg et Suzanne Fenn, si je ne m'abuse, ont écrit ensemble un texte qui s'appelait « Combat pour la libération des femmes » et qu'elles ont passé dans l'idiot international, qui a changé le titre en « Combat pour la libération de la femme ». Bon, c'était... Il faut dire qu'en général, c'est plus pratique pour eux quand il n'y en a qu'une. Bon, donc. Elle faisait partie d'un petit groupe qui était fort de 8 personnes, mais les 4 autres, menés par Antoinette Fouque, ne voulaient pas publier ce texte. Je ne sais pas pourquoi, bon, elles n'ont pas signé, elles ne voulaient pas le publier. Et finalement, on a pris contact avec ce petit groupe. On a eu une réunion en juin 70 dans l'appartement de Marcia Rothenburg, je m'en souviens très bien. Que là, très vite, il s'est fait une ligne de clivage entre, d'une part, alors là, je sais que vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est vrai, des gens qui étaient menés par Antoinette Fouque, qui soutenaient une ligne, disons, lutte de classe, qui était que les femmes n'étaient pas opprimées en tant que classe. C'était sur le fait que les hommes appellent leurs femmes la bourgeoise. Finalement, à la suite de ces réunions, que le groupe qui devait devenir le MLF s'est créé. Mais le nom ne lui a été donné qu'après, car nous avons fait une manifestation à l'Arc de Triomphe, où nous étions 9. Et c'était un 26 août, et bon, il n'y avait pas grand-chose. Et l'une de nous connaissait une journaliste qui avait ameuté les journalistes, ce qui fait qu'il y a eu des photos dans la presse. Et qui ont dit que donc, le mouvement de libération de la femme française... Hein, attention, c'est pas la même, hein, avait frappé. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a gardé ce titre? Eh bien, parce que c'était exactement la traduction du Women's Liberation Movement qui existait aux États-Unis. Moi, je ne l'avais appris que, d'ailleurs, dans les colonnes du Nouvel Observateur, que je dois dire, je lisais à l'époque. Bon. Et j'avais appris qu'il y avait un mouvement de libération des femmes aux États-Unis. Je me souviens que c'était fin 69. Et j'étais tellement énervée, tellement excitée par ce truc-là que je l'ai mis de côté. Je ne l'ai même pas lu tout de suite. Je n'arrivais pas. J'étais trop énervée. Donc, voilà comment, disons, le mouvement s'est créé. Alors maintenant, je vous dis que tout ça est complètement lié, que j'ai beaucoup de mal à distinguer mon parcours de recherche de mon parcours militant, car mon premier thème de recherche, si vous voulez, sur la transmission du patrimoine, j'avais quand même réussi à en faire un peu quelque chose, qui avait à voir avec la famille, pas directement avec les femmes, puisque bon, il n'y avait pas de femmes de toute façon. À l'automne, ou avant l'automne, donc la manifestation dont je vous ai parlé a pris place le 26 août 1970, à l'automne, Anne Zelinsky et d'autres avaient obtenu que la revue Partisan, publiée chez Maspero, nous cède un numéro. Donc nous avons fait ce numéro. Et je pense que c'était un numéro vraiment formidable. On a traduit énormément de textes américains, et il y a eu beaucoup de textes français. Et pour ce numéro, moi, j'ai écrit l'ennemi principal. J'ai écrit l'ennemi principal, qui était donc, qui était embryonnaire, etc. Et ça a été publié dans Partisan, avec tous ces autres textes formidables, qui s'appelaient Libération des femmes, année zéro. Contre quoi, d'ailleurs, Huguette Bouchardot s'est élevée un an ou deux après en disant pas d'histoire les femmes. Elle était historienne et elle avait bien raison. Enfin, des décennies de patriarcat qui était venu recouvrir et de patriarches actifs était venu déformer, recouvrir, salir la mémoire des premières féministes. On appelait des suffragettes et nous-mêmes, nous ne connaissions pas cette histoire. Et heureusement, les historiennes féministes sont arrivées et les ont récupérées des culs de base fausses où elles avaient été jetées par l'histoire faite par les hommes. Et les ont dépoussiérés, les ont lavés et ont restitué leur mémoire. L'année où le MLF s'est créé en tant que MLF et qu'il a commencé à vraiment décoller, hein, parce que nos petits groupes, ils ne faisaient que s'attendre mutuellement et y piétiner. Et moi, je me souviens très bien de cette période entre 68 ou 69, où j'avais l'impression que ce qu'il fallait faire, c'était tenir, tout simplement tenir et durer jusqu'à ce qu'on rencontre les autres. Et finalement, eh bien, j'ai pas eu tort, parce qu'on les a rencontrés. Et la même année, j'ai été recrutée en tant que chercheur au CNRS. J'ai eu beaucoup de chance là aussi. Bon, en racontant un peu des histoires. Où je m'en suis rendu compte, mais heureusement, avec beaucoup d'années de retard, j'avais toujours été à deux doigts de me faire renvoyer. Mais bon, je n'en étais pas rendu compte sur le moment, et puis après, j'étais installée, j'étais dans la place. Mais les 8 premières années étaient des années probatoires que j'ai vraiment été à deux doigts de ne pas être renouvelée. Il faut dire aussi que je n'ai pas rendu les choses faciles pour moi-même, parce qu'à partir de ce moment-là, bon, l'ennemi principal, je l'avais pas signé de mon nom. D'abord parce que l'anonymat était la règle, c'est vrai, mais que moi, je n'osais pas signer un article comme ça. Je crois que je l'ai introduit dans ma bibliographie 3 ou 4 ans plus tard. Mais ensuite, tous mes articles, il y avait toujours soit libération des femmes, soit oppression des femmes, soit féministe dans le titre. Alors évidemment, pour le CNRS, ça l'a fouté un petit peu mal. Et l'histoire du mouvement est elle-même une histoire, comme vous le savez, pleine de bruit et de fureur. Mais grosso modo, j'ai réussi à me maintenir au CNRS. Et quant au mouvement, c'est une autre histoire qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Bon.
Vous êtes toujours avec Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM et on écoute la vie de Christine Delphi. Et elle vient de nous faire un gros tabou là, non ? En nous disant « Ah, du bruit et de la fureur dans le mouvement, c'était des trucs compliqués », mais en fait de quoi elle parle ?
De quoi elle parle ? Eh bien, des embrouilles, parce que dans le milieu féministe des années 70, 80, 90, 2000, 2010, il y a aussi des embrouilles, parce qu'il y a des embrouilles liées notamment à des divergences politiques et du coup à des positionnements de gens. Et Christine Delphi, même si on a une admiration folle pour elle et qu'on la kiffe beaucoup, Christine Delphi, elle a quand même fait du caca des fois. Notamment sur le fait qu'elle ne s'est jamais positionnée en tant que lesbienne. Et oui, Christine Delphi est une lesbienne placard. Enfin, c'est pas une lesbienne placard dans la mesure où je suis pas en train de faire de l'outing de Christine Delphi, vu que par exemple on peut la voir dans un film qui s'appelle « Dieu merci, je suis lesbienne ». Mais je veux dire que politiquement et socialement, elle s'est jamais positionnée en tant que lesbienne et elle n'a jamais théorisé, notamment ou eu des écrits ou écrit des choses sur le fait de comment en fait la position politique et sociale de lesbienne changeait des choses justement à la réflexion juste basique sur le patriarcat et du coup notamment comment elle a jamais soutenu par exemple Wittig quand elle était dans des trucs de dénoncer l'hétérosexisme et du coup de aussi décrire les femmes, enfin les lesbiennes comme étant en dehors du corps des femmes parce que justement elles se soustraient au système hétérosexuel et que du coup dans cette mesure-là ça change des choses. Du coup Christine Delphi elle a jamais été dans ces histoires-là. Christine Delphi elle a toujours gardé la même ligne toute droite là et fixe de il n'existe que les femmes et les hommes et c'est l'oppression des femmes et c'est l'émancipation des femmes et le féminisme c'est pour les femmes. Mais du coup dans une optique matérialiste très classe mais que quand même on a beaucoup parlé de femmes quoi.
Et c'est vrai que au début du MLF tous les courants féministes étaient plus ou moins unies, en fait. Et puis, elles avaient justement des causes communes qui faisaient que ça marchait bien. Et puis, petit à petit, quand même, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas toutes d'accord. Et notamment, c'est vrai que les lesbiennes dans le mouvement féministe, à un moment, on dit ça suffit de nous placardiser, justement. Il faut aussi nous prendre en compte dans nos spécificités. Nous, on lutte pour l'avortement, finalement, on lutte pour vous. Il faut aussi que les femmes hétérosexuelles soient conscientes que une partie du mouvement est constituée de lesbiennes, en fait.
Et c'est là justement qu'elles se sont barrées, notamment pour créer les Gouin Rouges.
Mais il y a eu d'autres trucs avec des essentialistes, non, dans le mouvement
Après, juste pour dire vite fait quelque chose sur les Gouin Rouges, si des lesbiennes et des Gouin se sont barrées un moment pour créer ce groupe des Gouin Rouges, c'était notamment parce qu'elles avaient peur d'être les grandes perdantes de la lutte et d'être complètement invisibilisées dans la lutte plus large, féministe, qui du coup était beaucoup hétérocentrée. Mais c'était aussi en réaction à la misogynie de leurs camarades PD et homosexuels. Et du coup, la peur que, par exemple, la lutte des phares, du coup, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, les englobe au bout d'un moment et les invisibilise. Ça veut dire qu'elles étaient doublement perdantes. Elles devaient lutter face à leurs camarades homosexuels, hommes et PD pour justement rester visibles et avoir des revendications lesbiennes et aussi rester vigilantes par rapport aux revendications des femmes hétérosexuelles pour ne pas être invisibilisées. Et du coup, ça, c'est d'où la création des Gouin Rouges.
Mais là, du coup, on n'a plus trop de temps, mais peut-être on peut évoquer quand même ce truc de fracture avec les essentialistes.
On peut dire qu'en fait, le mouvement de libération des femmes, il est un peu mort avec en fait, un acte d'Antoinette Fouque, qui était la leader d'un groupe qui s'appelle Psychépo, qui a été de déposer comme une marque commerciale le terme MLF. Et c'est vrai qu'on pense que c'est un peu, comme une pierre tombale un peu du mouvement de libération des femmes. Alors, c'est pas que cet acte-là, mais effectivement, ça montrait bien qu'à un moment donné, les différents mouvements, les différents groupes ne pouvaient plus s'entendre.
Parce qu'Antoinette, elle était essentialiste.
Oui.
Ah bah, et d'ailleurs, bravo. Le groupe Psychépo existe toujours. Je pense qu'il se réunit toujours. Enfin, ou du moins, il y a une énième reconfiguration du groupe, mais je pense qu'il y a encore des rassemblements Psychépo à Paris.
Alors, on va écouter un morceau de musique pour enchaîner sur la dernière partie de la conférence, et c'est un morceau de Cazet qui s'appelle « Sac de sucre ».
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon, j'achère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, lever les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai ailé les voisins, rassemblé mon réseau, j'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision, sans trouble ni confusion, de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. Un sac de sucre. Un sac de sucre. Une bouteille de rhum. Ou un sac de sucre.
La question à laquelle je voulais en venir, que m'a posée cette féministe italienne, elle m'a dit qu'elle voudrait se concentrer sur le fait que le racisme est depuis plusieurs années au cœur de mes pensées, de mes préoccupations théoriques et politiques, que mon expérience aux États-Unis m'avait rendue sensible au racisme, que c'est une question que je n'avais pas perçue en France. Après mon retour à Paris, j'ai mis longtemps à percevoir. En effet, le racisme, nous l'utilisions dans les premières années du mouvement, comme analogie. Et l'exemple qui était invoqué, c'était toujours celui des Noirs aux États-Unis. Les Noirs, parce qu'ils avaient la lutte des Noirs, ce qu'ils avaient dit eux-mêmes sur le racisme, etc. Mais les hommes et les femmes qui provenaient des anciennes colonies françaises et qui étaient présents sur le territoire français, comment est-ce qu'on les percevait ? Et elle m'a dit aussi, cette féministe italienne, que cette forme analogique a été très contestée, je sais, particulièrement par Bell Hooks dans Ain't I a Woman, Black Women and Feminism, qui dit qu'il y a une sorte de mécanisme sexiste et raciste qui produit, à travers cette analogie, une non-visibilité des femmes non blanches. Et la critique de Bell Hooks est absolument et totalement justifiée. J'ai essayé de m'en expliquer en répondant à cette camarade italienne. Je dirais oui, nous étions aveugles au racisme français. Mais la raison que je lui ai donnée, c'est que nous voyons, il y avait très peu d'immigrants de l'Afrique subsaharienne, et beaucoup d'immigrants de l'Afrique du Nord. Bon, c'était comme une population à part, on savait qu'elle n'était pas là pour rester, parce qu'en effet, le regroupement familial n'a commencé qu'au milieu des années 70, qui n'avait donc pas encore d'enfants, etc. Mais je pense que ça, c'est une façon dont je me suis facilement défaussée du fait que, tout simplement, j'étais comme tout le monde, j'étais raciste. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire, je n'ai jamais, jamais torturé ni un Maghrébin, ni un Africain subsaharien. C'est pas ça. C'est que j'avais à leur encontre les mêmes préjugés que tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Évidemment, c'est très un exemple que je prends de ma propre vie, n'hésitant pas à vous la livrer en pâture. Quand j'étais adolescente, et c'était au moment de la guerre d'Algérie, eh bien... j'avais un petit ami, un petit flirt, comme on disait à l'époque, qui était algérien, qui faisait ses études en France. Et on se disputait sur la guerre d'Algérie. On allait au cinéma, et puis après, on se disputait sur la guerre d'Algérie. Donc, il y avait ce mélange d'égalité, hein, et puis aussi de... moi, ce que je disais sur la guerre d'Algérie, je trouve qu'il était bien gentil de le supporter. Je me souviens des arguments que j'utilisais, non pas avec lui, parce que quand même, je savais qu'il y avait des limites à ne pas franchir, mais en général, moi j'étais dans un milieu plutôt réactionnaire, enfin plutôt de droite, et je répétais des trucs, et quand il a été question de la torture exercée par des soldats français en Algérie, de la question d'Henri Alleg, de choses comme ça, eh bien, je faisais partie des gens qui disaient « mais c'est pas possible, c'est impossible parce que nos valeurs, notre culture, etc. » je ne disais pas à des soldats qui ont lu Montaigne et Montesquieu, je ne m'avançais pas jusque-là. Mais enfin, grosso modo, il y avait une espèce de supériorité culturelle, il y avait une espèce de raffinement culturel qui faisait que des gens qui étaient nés dans cette culture... ne pouvaient pas s'abaisser à torturer, alors qu'évidemment, des sauvages comme les gens du FLN pouvaient, eux, s'abaisser. Enfin, ils ne s'abaissaient même pas, ils étaient déjà à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que j'étais raciste. Enfin, je me suis rendu compte que quelque chose clochait, non pas que j'étais raciste, mais quelque chose clochait dans mon raisonnement. Un jour où, et c'était avant de partir aux États-Unis, je me suis moi-même entendu dire, je discutais avec un type de l'UNEF dont j'ai oublié le nom. Et je défendais la position Algérie-Française. Et je lui ai dit, mais si l'Algérie devient indépendante, les oranges seront plus chères. C'était vraiment, j'étais au bout de mon rouleau d'arguments contre l'indépendance. Et moi-même, m'entendant dire ça, je me suis trouvée minable. Moi, absolument minable. Je pense qu'en effet, je n'étais pas la seule, le racisme n'était pas perçu dans notre propre société. Alors que le racisme à l'encontre des Noirs américains était utilisé comme analogie pour parler de la situation des femmes. Mais j'ai mis très longtemps à le percevoir. J'ai mis très très longtemps à percevoir ce racisme. Fait que Raïs Jasser, qui est une Française d'origine syrienne, qui est en France et a la nationalité française depuis 30 ans, a fait partie d'un des comités de rédaction de Nouvelles Questions Féministes. Ah oui, c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais en 77, nous avons créé, cofondé avec Simone de Beauvoir, Questions Féministes. Et puis en 81, nous avons fondé Nouvelles Questions Féministes. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à publier cette revue. C'était un travail énorme. Il y a eu une première affaire du foulard en 89, ensuite une deuxième en 95. Et je ne me rappelle plus, entre les deux, Raïs Jasser a écrit un article qui d'ailleurs ne prenait pas parti sur si c'était bien ou si c'était pas bien. mais qui parlait de la lutte des femmes du Moyen-Orient contre le foulard dans leur propre pays, une lutte qui est complètement ignorée en Occident, comme d'ailleurs toute l'histoire de ces pays-là, et le fait que, avant de tomber sous la coupe de dictatures très souvent mises en place par des Occidentaux, il y a eu des moments où ces pays ont connu la démocratie, et Raïs le sait très bien, puisqu'elle est elle-même la fille exilée d'un communiste syrien. Et puis, les affaires ont progressé, et oui, grâce à Raïs, je pense, en partie, pas seulement grâce à elle, mais en mélangeant, si vous voulez, mon expérience américaine et une plus grande attention, une plus grande sensibilité à ça, je me suis un peu rendu compte que non seulement le racisme existait en France, mais qu'il était quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en compte dans ce qui se passait. Et c'est peut-être quelque chose qui a manqué à beaucoup de mes camarades, ou ex-camarades, car quand il y a eu en 2003 la dernière affaire du foulard, et surtout qu'on a mis en discussion une loi pour interdire aux adolescentes qui portaient le foulard de porter le foulard dans les classes, et j'ai vu surgir, on va dire, tout entier, tout ce racisme, à ce moment-là, disons, mon parti était pris. Parce que dès avant, je l'avais écrit en 98, je crois, dans, ou 99, dans la préface du deuxième tome de L'ennemi principal, ce que je voyais se former en France, c'était des castes raciales. C'est-à-dire des castes, qu'est-ce que j'entends par castes? Les castes, ce ne sont pas juste des classes. Une classe, je reprends le schéma marxiste qui a toujours été finalement mon fil conducteur, une classe, on est au moins en théorie censé pouvoir s'en échapper. En fait, pas tellement, puisque on constate que les enfants de bourgeois deviennent bourgeois et que les enfants d'ouvriers deviennent beaucoup ouvriers. Mais pas tous. Une caste, en revanche, c'est quelque chose de totalement héréditaire, c'est totalement fermé. Et c'est ce qui me semblait, ce qui me semble toujours voir dans la situation française. Eh bien, au moment de la dernière affaire du foulard, mais qui n'est pas la dernière péripétie du déploiement de ce, disons, d'un racisme particulièrement virulent en France, mais plus généralement dans l'ensemble de l'Europe, j'ai pris un parti très clair contre cette loi, ce qui a été un des moments pénibles, parce que en effet, il y a eu des tas de moments pénibles, en fait, beaucoup plus dans mon parcours militant que dans mon parcours universitaire, qui devenait en fait, lui, de plus en plus facile, car au CNRS, au fur et à mesure qu'on a de l'ancienneté, on a aussi plus de liberté pour travailler sur ce qu'on veut. Donc je me suis rendu compte de ça et du fait que les analyses qui étaient faites du port du foulard étaient complètement fausses. Et là, j'ai été beaucoup aidée dans mon interprétation, à la fois par une jeune chercheuse, Christelle Hamel, dont j'ai relu la thèse et que j'ai, disons, soutenu dans les dernières étapes de l'écriture de sa thèse, et qui elle-même m'a indiqué les ouvrages de Farhad Khosrokavar, qui est un chercheur au CNRS, et qui a écrit un livre que je conseille à tout le monde, et qui s'appelle « L'islam des jeunes », et où il explique très bien, et à mon avis de façon très convaincante, et surtout sociologique, et d'une façon non raciste, ce qu'on appelle la réislamisation des banlieues ou la réislamisation dans notre pays. En deux mots, ce qu'il dit, c'est voilà des jeunes, et il parle en effet de la génération des descendants d'immigrés qui ne sont pas des immigrés, ou de même des petits-enfants d'immigrés qui ne sont pas des immigrés non plus. Et c'est justement parce qu'on les appelait immigrés, et qu'on continue de les appeler immigrés de la deuxième génération, parfois de la troisième génération, que j'ai compris qu'on avait affaire à une caste, parce que le statut d'immigré donc était devenu héréditaire, quasi biologique, et il se transmettait par les parents. Hein. Or, immigré, pour moi, c'est comme de dire quelqu'un, ouais, quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Donc, oui, alors donc, le statut d'entrée se transmet d'une façon héréditaire. Je trouvais ça quand même assez extraordinaire. C'est une négation du fait que cette population est française à partir du moment où elle naît, dès son premier jour. Il ne s'agit pas de fœtus transportés à partir de l'Afrique. Et employer un terme comme immigré de la deuxième génération, c'est en soi-même d'une violence extraordinaire. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur notre société, plus généralement sur nos sociétés européennes. Donc, à partir de ce moment-là, en effet, j'ai travaillé sur les liens entre sexisme et racisme, mais je ne suis pas la seule, mais je l'ai fait dans une optique qui était, comme d'habitude, à la fois de recherche et militante. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que, bien dans les dernières années, finalement, pas mal de revues féministes ont suivi ce chemin et parlent du racisme, et parlent du sexisme, et parlent de l'imbrication des deux, mais sur un plan très théorique, en se demandant s'il faut parler de co-fabrication, s'il faut parler de co-présence, s'il faut parler d'intersectionnalité ou de consubstantialité. Et moi, franchement, les termes qu'on met dessus, mais ça m'indiffère complètement. Et je pense que la question n'est pas une question théorique de savoir comment cette imbrication des deux doit être dénommée. C'est une question pratique, si je peux dire. Enfin, la théorie, elle est ailleurs, de savoir comment on a pu, en effet, arriver à un moment dans notre société à mettre le féminisme au service du racisme. Je le dis d'une façon brutale et sommaire pour qu'on sache de quoi on parle. Après, bon, on pourrait certainement mettre le racisme au service de l'antiféminisme, mais là, il se trouve qu'on a mis le féminisme au service du racisme et que, surtout, on s'est coupé absolument tous les moyens de véritablement progresser dans ce qu'on prétend vouloir faire, c'est-à-dire de faire un pays où tout le monde est traité également. Et en fait, on s'est donné des bonnes raisons de continuer à traiter d'une façon différentes et à traiter comme des discriminatoires, à traiter comme des inférieurs et des inférieureux, toute une partie de la population française. C'est une chose qui m'indigne. Peut-être que l'indignation n'est pas un sentiment scientifique. Et si elle ne l'est pas, je le regrette, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait tourner le moteur.
Donc voilà, c'était la dernière partie de la conférence. Et du coup, cette dernière partie, notamment, revient pas mal sur le combat dans lequel s'est engagée Christine Delphi depuis ces dernières années, le combat antiraciste, enfin du moins féministe et antiraciste. Et notamment, en fait, elle s'est engagée dans ce combat-là quasi à peu près au début, enfin à la fin des années 80, enfin début 90, notamment quand il y a eu les premières exclusions d'adolescentes voilées, du coup d'adolescentes portant le foulard. Et depuis ce jour-là, elle n'a cessé de combattre justement en fait toutes ces formes de racisme, du coup des fois prenant des formes de loi, des fois prenant des formes de liberté, de libération de femmes, et notamment en fait les deux combats justement, enfin les plus emblématiques de cette instrumentalisation raciste du féminisme, ou du moins les deux exemples les plus emblématiques,
c'est notamment comment les luttes, enfin comment des guerres impérialistes ont souvent été menées avec des prétextes bidons, et notamment la libération des femmes de ces pays-là, et qu'elle, elle replaçait toujours qu'il n'y avait personne de, enfin du moins dans les personnes concernées, il n'y avait jamais de femmes gagnantes dans une guerre, qu'en fait les femmes étaient perdantes. Et l'autre exemple était justement comment, en fait, de plus en plus de lois racistes et islamophobes excluaient justement les femmes portant le foulard ou les femmes musulmanes ou supposées musulmanes en société française, comment elles étaient exclues et comment, en fait, c'était des instrumentalisations racistes du féminisme et comment on ne peut que s'attrister et être en colère en tant que féministe que, du coup, on soit utilisé pour cautionner un racisme puant en France, enfin, qu'il est de plus en plus, quoi. Et du coup, elle reste encore maintenant très active dans des groupes antiracistes et anti-islamophobes. Elle a vraiment des analyses très pertinentes là-dessus. Et du coup, que peut-être on en parlera plus tard. Mais notamment les collectifs dans lesquels elle est. Par exemple, il y a le collectif des féministes pour l'égalité. Où à un moment aussi, elle a soutenu le collectif des mamans toutes égales. Qui a un peu lutté autour de l'interdiction des mamans portant le foulard d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Après, bah voilà, elle est très active aussi. Ses écrits sont encore diffusés dans pas mal d'endroits. Notamment, les mots sont importants sur des sites comme ça où... Enfin voilà, elle est très active dans le combat féministe et antiraciste. Et notamment, là-dessus, il y a un livre qui est excellent. Et vraiment, si vous avez la possibilité, vous pouvez le lire. Qui s'appelle « Classe et dominée, qui sont les autres ?» qui est sorti à la Fabrique il n'y a pas longtemps. Et notamment sur ces questions-là, il y a deux textes. Parce que c'est un recueil de plusieurs textes. Et il y a deux textes qui sont vraiment super intéressants. Un qui s'appelle « Antisexisme ou antiracisme, info dilemme ». Et l'autre qui s'appelle « Race, caste et genre en France ». Ben, elle a un peu abordé ça dans sa conférence. Et voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire sur l'instrumentalisation raciste du féminisme.
Et on a prévu, dans les temps qui viennent, de faire une autre émission à partir d'une conférence qu'elle a faite à Marseille où elle parle essentiellement du racisme, et du coup de faire une émission entièrement à partir de cette conférence-là. Et sinon, de tous les livres qu'on vous a parlé, du coup, Classé de dominé, qui sont les autres, et les deux tomes de l'ennemi principal, vous pouvez les retrouver à la Bibliothèque féministe de Grenoble, qui se situe deux chemins des Alpins. Et c'est ouvert le lundi de 16h à 20h, le premier lundi du mois en mixité et le reste du mois en non mixité entre meufs, gouine et trans. Et on mettra une bibliographie en ligne quand on publiera l'émission sur internet sur www.radiorageuse.net. Et on se quitte maintenant avec... avec la fin du morceau qui servait pour le dernier tronçon de la conférence, qui est un morceau de Nina Simone qui s'appelle For Women. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
My skin is black. My arms are long. My is woolly. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was and white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Fine.
like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me?
Tough.